Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les petites phrases blessantes, elles peuvent être de différents ordres. Elles peuvent nous enfermer, comme nous l'avons entendu dans le premier épisode de cette mini-série. Elles peuvent nous assigner une place sociale, une place de genre. Mais elles peuvent aussi être explicitement blessantes, nous diminuer, nous amoindrir dans nos capacités propres, dans notre estime de nous-mêmes. C'est ce que Jérôme Massella explore dans ce deuxième épisode des petites phrases, grâce aux témoignages de Valentin, Aline et Marc. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Aujourd'hui, j'ai pas encore fait la paix. C'est une phrase un peu injuste qui n'aurait jamais dû être prononcée comme ça. Elle aurait mieux fait de m'encourager.
Valentin est au collège quand il entend cette phrase qui a réduit son horizon. C'est un adolescent réservé et travailleur. Il aime l'école. Il commence à s'affirmer. Il se laisse pousser les cheveux. Ses perspectives sont multiples. Sera-t-il architecte comme il le prévoit en 6e ? Ou avocat comme il le pense en 4e ? Ce qui est certain, c'est qu'il obtiendra le baccalauréat général que ses parents n'ont pas passé. Si lui ne le savait pas, d'autres avaient une vision très précise de comment se déroulerait son avenir. C'est notre première histoire pour cet épisode des petites phrases blessantes.
En 93, j'ai 13 ans et je suis collégien dans un collège de Paris. J'étais un élève moyen bon, avec juste une difficulté en français. En quatrième, j'ai une prof de français que je connais pas, qui est un peu plus traditionnelle dans son approche et dans sa façon de fonctionner. Elle est plutôt âgée et elle n'est pas toujours dans l'encouragement. Elle peut dire des cas de vérité comme ça, mais alors qu'on peut être dans un âge où les encouragements sont importants et justement pour surmonter les difficultés. En quatrième, elle nous fait découvrir l'API. L'API, c'est l'alphabet phonétique international. Pour elle, c'était hyper important que l'on sache lire l'API. Quand on cherche un mot dans un dictionnaire, c'est le petit mot qui est à côté et comment est-ce qu'on prononce le mot phonétiquement. Je vis mal de pas toujours avoir des bonnes notes en français parce que c'est toujours la chose que je traîne. J'ai l'impression que ça va me poursuivre toute ma vie. Et un jour, en classe, devant tout le monde, elle me dit « Avec le niveau de français que tu as, tu ne passeras jamais en seconde. » À ce moment-là, je me sens décontenancé et je me pose la question de savoir si elle dit vrai. Surtout qu'en quatrième, je suis pas encore en troisième et que je suis pas encore sur mon passage en seconde. Donc c'est bien en amont, elle injecte un principe de réalité qui pourrait être comme « arrête de rêver ». C'est presque une forme de condamnation de mon parcours scolaire. C'est pas si, comme si elle m'avait dit que j'avais peut-être pas de chance de passer en troisième. Mais là, elle me disait qu'en seconde, donc dans 2 ans, que de toute façon, j'étais déjà peut-être voué à l'échec dès maintenant, quoi, que mon avenir était un peu compromis, quoi. Malgré tous les efforts que je fais, on les voit jamais. J'aurais beau recopier les mots 200 fois, essayer de savoir quand est-ce que je dois accorder le verbe avec le COD, peut-être que j'arriverai jamais à m'en sortir, en réalité. Enfin, quelle est ma voie de sortie ? En troisième, je passe mon brevet des collèges, je réussis et je rentre en seconde dans un lycée parisien. En première, je passe mon bac de français. J'ai eu 4 sur 20 à l'écrit. Ça vient résonner. Pour autant, le reste des notes était quand même à peu près était correct. Et donc, j'ai cherché à aller dans un meilleur lycée. Et en changeant de lycée, mes anciens camarades m'ont forcément posé la question de savoir combien j'avais eu au bac de français. J'ai dû dire que j'avais eu 10 et 12, quelque chose dans ce goût-là, parce que je ne pouvais pas dire que j'avais 4 sur 20. Et j'arrive quand même à avoir mon bac cette année-là. Et après mon bac, j'ai fait des études supérieures à l'université. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Mon entourage me dit que j'écris bien, mes amis me disent que ça va. J'écris mes mails au travail et ça se passe très bien. Mais j'ai toujours l'impression de jamais pouvoir écrire quelque chose de bien. Donc j'ai ce sentiment qui reste présent. Cette professeure de quatrième, je repense toujours à cette phrase. Alors j'ai certes su réussir à dépasser parce que j'ai pu aller en seconde, mais elle a mis en avant une blessure, donc elle l'a un peu marquée au fer rouge. Cette remarque manquait d'auteur de vue, et cette phrase, aujourd'hui, je n'arrive pas encore à la balayer, elle reste encore en moi. C'était mesquin et c'était avec une volonté de faire du mal. Aujourd'hui, je n'ose même plus écrire parfois à cause de ça. Enfin, j'ai peur d'écrire. J'ai peur d'écrire parce que je pense que toujours on va mal me comprendre, que je vais pas être assez précis. Aujourd'hui, j'ai peur d'écrire une lettre de motivation, j'ai peur d'écrire des mails trop longs. Parfois, je les envoie en me disant « tant pis, si la personne ne comprend pas, elle le dira elle-même ». Et j'ai des angoisses d'écriture de mails. Et cette phrase, elle participe à cette angoisse-là.
Ces paroles restent en mémoire, c'est peut-être qu'elles prospèrent sur le terreau d'une réalité, d'un traumatisme. La parole s'accroche, trouve une prise, et malgré les efforts, elle reste gravée quelque part.
Je ne suis pas du tout traumatisée de cette histoire, mais ce ne sont pas des choses à dire à un enfant, parce que malgré tout, vous voyez, je vous en parle maintenant.
La phrase qu'Aline a reçue était dite sans malveillance, sans drame. Pourtant, plus de 70 ans après, elle y pense encore. Avec un humour qui raconte beaucoup de sa pudeur, elle m'a raconté ce que sa mère disait d'elle à sa naissance, pendant la guerre.
Je m'appelle Aline, j'ai 81 ans. Mes parents ont eu deux enfants, ils se sont arrêtés là. La guerre est arrivée, mon père a été mobilisé, mais comme il fallait, dans le foyer, trois enfants pour être démobilisés, donc, quand mon père est venu en permission, ils m'ont conçu. C'est-à-dire que j'avais 10 ans d'écart avec ma sœur, 7 ans avec mon frère, et on était en 1940 quand je suis née. Et ma mère avait 33 ans. Tout ça, je le comprends, parce qu'en riant, en s'amusant, maman me disait, tu sais, je ne désirais pas un troisième enfant. Quand on était en famille, par exemple, qu'en voulant rire, on me disait, alors Aline, c'est vrai, tu n'étais pas désirée, et moi je m'adressais à maman, et je disais, tu vois, heureusement que je suis équilibrée. Écoute ce qu'on vient de me dire encore. Alors elle était, bien sûr, ça m'embêtait à la limite de la perturber. Parce qu'en fait, je la perturbais. Elle s'apercevait malgré tout que c'était pas bien de l'avoir dit. Et quand je lui disais, mais maman, tu te rends compte? Elle me disait, mais non ma fille, tu as été le bonheur chez nous. Mais ça aurait pu marquer toute ma vie. Les mères, elles lançaient des choses comme ça, sans... Et puis peut-être qu'elle était dans un mauvais état à ce moment-là, elle était fatiguée, elle était... Et puis une troisième grossesse, 7 ans après, elle n'avait pas envie, c'est surtout ça. Elle est née en 1907, et en 1907, on ne parlait pas psychologie. Mais à l'heure actuelle, c'est derrière moi, j'ai eu tellement d'amour de la part de mes parents, de ma mère. D'ailleurs, elle disait toujours, je vous présente ma fille, c'est mon bâton de vieillesse, en parlant de moi. Et elle disait tout le temps en riant, elle n'est pas jolie, mais elle est tellement gracieuse.
En amour, il y a des phrases qui sont prononcées pour créer une réaction. Lancer en roue libre, le regard attentif aux effets qu'elles produisent. Ces paroles qu'il faut savoir éviter et qu'il est préférable de ne pas retenir quand on en est la cible. Même quand on croit y déceler un fond de vérité.
Cette phrase, pour moi, clairement, sur le moment, vu le regard, le contexte, les difficultés que nous vivions à l'époque, a été dite pour blesser.
Marc, lui, est comédien quand il rencontre Fanny et en tombe amoureux. Peu à peu, les phrases blessantes apparaissent, s'installent, deviennent courantes, omniprésentes, jusqu'à ce que la phrase de trop soit prononcée.
En 2012, j'ai 29 ans et je suis invité à un dîner de comédiens où Fanny est là. Je me souviens, elle est au fond de la pièce, on parle un petit peu, on échange quelques regards. Je me souviens très bien quand elle est arrivée, les échanges de regards et au moment où elle est repartie. Voilà, une connexion et une envie de se rencontrer et de se revoir plus tard. Moi, je viens d'avoir 29 ans et elle, dans mon souvenir, elle vient d'avoir 23 ans. En fait, j'ai grandi dans une famille mondaine dans laquelle j'avais pas trop le droit d'être triste. Et un jour, mes deux parents tombent malades et face à ça, je commence à me poser plein de questions. Tout mon monde s'effondre. J'ai un père qui est plutôt dépressif et que j'ai toujours vu, enfin en tout cas dans ces dernières années, seul, malheureux, triste, incapable de profiter de la vie et d'aimer la vie. Et effectivement, cette planée au-dessus de moi, cette ombre, ce doute que potentiellement un jour je puisse être bipolaire, dépressif. Et clairement, quand je la rencontre, il y a un grand décalage entre ce que je peux renvoyer et comment je me sens à l'intérieur. Donc je me sentais pas malheureux et en même temps je me sentais pas épanoui, pas entreprenant et clairement avec un énorme fossé de manque de confiance en moi. Et effectivement, pendant le premier mois, je suis transporté par la magie de notre rencontre. Elle a emménagé, ses parents ont emménagé en face de l'appartement dans lequel j'ai grandi dans ma rue d'enfance chez mon père, que je crois que son père connaissait mon beau-père, que sa mère connaissait ma mère quand j'étais tout petit, qu'on a notre prof de commun de théâtre. Enfin, il y a une flopée de choses qui nous font dire que, on est fait pour se rencontrer, tout se passe super bien, jusqu'au moment où je lui dis « je t'aime ». Et que j'ai envie d'être avec elle et qu'elle m'a dit, elle me l'a dit clairement, j'ai tout fait pour que tu tombes amoureuse de moi. Et une fois que j'étais amoureux, j'ai lâché ça et j'ai pu redevenir qui j'étais. Et donc le fossé entre les deux fait que très vite, il y a eu des engueulades, des tensions. Elle m'envoie une pique, je lui envoie une pique, je vais la sauver. Et donc il y a je l'humilie, elle m'humilie, je viens la sauver, je viens la récupérer. Donc c'est dans un rapport un peu... malsain, je pense, pour tous les deux, dans lequel chacun est la victime et le bourreau de l'autre, puis chacun vient sauver pour dire pardon. Et nous avions une relation, des relations sexuelles plutôt brutales et dures, proches de la violence, mais aucun des deux était capable de le verbaliser. Je me dis que je vais gérer, que je vais y arriver, que je vais réussir à nous aider à faire traverser ça. Par les mots et par la clarification, nous allons trouver une solution. Au bout de 6 mois, nous partons en Corse. Et normalement, nous avons prévu pendant l'été de profiter d'une semaine où nous louons un van et d'aller faire le tour de la Corse et de faire du camping, de se promener et de découvrir le reste de la Corse que je ne connaissais pas jusqu'à ce moment-là et d'arriver pour le 6 août pour l'anniversaire de mon beau-père. Y a une crise d'angoisse quasiment tous les jours. Toutes les pensées noires qui la traversent, ça sort. Donc, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des « ce couple, ça sert à rien ». Et je reçois toutes ces décharges de mots, insultes, critiques, dévalorisation ou d'elle ou de moi et de notre couple. Pour moi, c'est éreintant et épuisant. Nous arrivons chez mon beau-père dans un milieu... très mondain, très cadré, dans lequel les émotions sont généralement besoin d'être masquées ou pas divulguées. C'est le soir de l'anniversaire de mon beau-père et je crois que pour se préparer, pour se détendre, elle prend un bain et je suis à côté d'elle. Et voilà, on passe tous les deux un très bon moment. Comme souvent dans notre relation, il suffisait d'un mot, d'une phrase, d'un regard pour que tout vrille. Alors je me souviens plus ce qui a fait que ça a vrillé. En 2 secondes, nous sommes repartis dans une dispute. Et là, elle me dit « Marc, tu seras jamais heureux. » Dans un premier temps, je suis sidéré. C'est-à-dire un rien, un vide total à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de recevoir la phrase la plus violente qui m'a jamais été dite parce que ça vient appuyer sur une faille extrêmement forte chez moi. jusqu'à ce que, je pense, au quelques instants, mon corps, mon cerveau me disent « Mais attends, mais c'est quoi cette phrase? Comment elle peut se permettre de dire un truc comme ça ?» Et donc là, ça monte, ça boue. Et je crois que deux secondes après, j'explose physiquement parce que je suis à bout de mots, à bout de tendresse, à bout de tout dans cette relation. Et donc, je pars. Je suis fatigué de jouer à... L'un agresse l'autre, puis l'un devient la victime de l'autre, puis l'un devient le bourreau de l'autre, puis l'un vient le sauver. Enfin, je suis épuisé de ça. Et clairement, j'ai pas su éviter ni les mots, ni la charge, ni l'implication que ça avait. Je me le suis pris de plein fouet et elle a appuyé, ou en tout cas, je l'ai laissé appuyer à un des endroits les plus fragiles et les plus vulnérables qu'il y a à l'intérieur de moi. Marc, tu seras jamais heureux et j'ai pas d'autre issue. Et j'aurais beau tout tenter, je vais juste tourner dans un moulin comme une souris et j'arriverai jamais à sortir de cette roue. Et que je finisse comme mon père, à 80 ans, seul, célibataire, qui voyait quasiment plus ses enfants. Donc cette perspective-là était ancrée ou dans mon ADN ou dans mon inconscient et j'avais une terreur de potentiellement un jour ne jamais m'accomplir, ne jamais être heureux. Et l'implacabilité de ce jugement... Ça m'a... Enfin, je me suis laissé, comme je disais, ouais, anéantir et écrasé par le poids de mon passé et de la puissance de ces mots. Clairement, la phrase a fonctionné parce qu'en moi, il y avait cette potentielle croyance. Donc, j'ai cru. Et d'une certaine façon, ces mots, c'est comme si ça venait confirmer... Une peur qui était en moi et qui préexistait, donc elle venait confirmer, et finaliser et mettre le dernier point au chapitre de bah, « Marc sera malheureux, je serai malheureux ». Et de toute façon, elle le voit, la femme qui m'aime et qui est censée m'aimer et qui est censée savoir et me connaître, dit que je serai malheureux. Elle le sait, maintenant je le sais et c'est confirmé. Donc voilà, c'était fini, enfin, tu vois, il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Et après ça, ça continue, des hauts, des bas, beaucoup de violence. Je crois que nous arrêtons, nous séparons une fois, puis elle vient me récupérer et je reviens. Tout mon corps me faisait mal. Et au moment où j'ai enfin osé prononcer les mots « je te quitte », tout d'un coup, mon corps s'est détendu. J'étais dans une détente et je remercie mon corps de s'exprimer et de me dire quoi faire. Clairement, cette phrase, comme elle sonnait comme une condamnation, a été un réveil de « c'est possible, elle a peut-être raison ». Et elle aurait sûrement eu raison, et peut-être que même sans cette phrase, elle aurait eu raison. Seulement, cette phrase est venue, et ça a été « ok, bah, je vais chercher, trouver, explorer ou juste accepter le moyen de me libérer de cette phrase et de réécrire cette phrase et d'être... heureux d'être moi, quel que soit ce que je vis et quel que soit ce que je sois. Quelle que soit l'intention qu'elle y ait mise, elle, aujourd'hui, pour moi, c'est une bénédiction que d'avoir reçu cette phrase. Ça a montré ma détermination et mon énergie et ma volonté de changer les cartes que j'avais reçues à la naissance et de pouvoir jouer et d'être créateur de ma vie. Par contre, aujourd'hui, il reste encore une petite pointe d'amertume.
Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé ces épisodes. Je suis Charlotte Pudlewski et Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com. Et si vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Il y aura des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien d'autres choses. louismedia.com/club. À très vite.
Thank you. Je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.